de construire les cœurs par la lumière du Saint-Esprit. Tout se passe à l'intérieur. Et il nous donne de goûter ce qui est bon. Goûter ce qui est bon. Pour répondre à l'un d'entre vous hier qui posait la question, en tout temps, il y a un sens de la bonté des choses. Il cherche ce qui est beau et bien pour lui. C'est quelque chose qui est déposé en nous par Dieu, ça. Du coup, alors, on peut jouir de ces divines consolations. Et je voudrais partir un peu de cette réalité qui est enfouie en nous, que nous ignorons parfois, qui est cette direction imprimée à notre être, à l'intérieur, d'aller vers le Créateur, d'aller vers la source de notre propre vie, se orienter vers Dieu. Alors, dans l'adoration, il ne s'agit pas de sortir de soi, même si physiquement on sort de chez soi pour aller à pied vers l'oratoire Jean-Paul II, faire le code, pousser la porte, la tirer et se mettre à genoux. Bien sûr qu'il y a un mouvement extérieur qui, d'ailleurs, imite bien, exprime bien cet élan qui nous porte vers Dieu. Mais il s'agit surtout de descendre en soi. Nous nous déplaçons, nous sortons de chez nous pour aller en nous. Je regarde le Christ, non pas parce qu'il est à l'extérieur, mais parce qu'il est à l'intérieur. Et si vous voulez, nous allons développer cet intérieur. Il n'y a pas très longtemps, je disais un célèbre psychanalyste qui était un ami puis dissident de Freud, il s'appelle Carl Gustav Jung, et quelque chose, probablement. Alors Jung était fils de pasteur, protestant d'origine, assez profondément religieux dans le fond. Il a cassé avec Freud lorsque il a refusé le diktat de la réduction du psychisme à la libido. La libido sexuelle. Il s'est rendu compte que il y a en l'homme des structures dans sa psyché où s'expriment des fonctions transcendantes qui relient le psychisme à des expériences religieuses de toute l'humanité. Il y a en l'homme une faculté, si vous voulez, de se tourner vers quelque chose que lui appellera assez facilement la divinité, le divin. Il ne dit pas Dieu parce qu'il reste dans sa discipline, vous voyez, mais il y a une sorte d'assomption de l'homme dans une réalité qui le dépasse. Et le psychologue, expérimente cela. Et c'est la raison pour laquelle Carl Gustav Jung, scrutant le psychisme de ses patients, découvre que, dans le fond, il faut faire une expérience intérieure. Une expérience qui nous permet d'être au contact d'images, de réalités qui viennent de plus loin que nous, dans lesquelles nous sommes comme englobés, en quelque sorte, relié à toute l'humanité, à toute son expérience, et même au cosmos. C'est le sens des grands symboles religieux, qui sont à la fois des symboles cosmiques, comme vous le savez, et des symboles en même temps divins. Le symbole de la croix, le symbole de la terre, le ciel, vous voyez, l'homme, la femme, tout cela qui se retrouve dans les religions, dans beaucoup de spiritualités. Et Jung découvre que, dans le fond, une authentique expérience religieuse est une expérience qui nous fait faire un itinéraire psychique. Et qu'il n'y a rien de religieux qui ne soit en même temps authentiquement psychique. Et que par conséquent, il faut retrouver la dimension profonde, spirituelle, intérieure de l'expérience religieuse. Lui qui vivait à une époque où l'on était dans un cadre assez formel, la religion du temps de Jung, surtout dans le protestantisme, dans le protestantisme très officiel des grandes églises, était une religion assez formelle, où la pratique même du culte était raréfiée. Et donc c'était une religion spirituellement raréfiée. Mais le formalisme dans lequel on était tombé, et qui faisait de la religion une religion sociale, se vidait complètement de toute expérience intérieure. Et beaucoup de réformes dans l'Église, depuis Luther, en passant par John Wesley, le méthodisme, etc., dans le milieu anglican, tout cela, c'était une espèce de retour à l'expérience religieuse authentique, portée par la foi, par la prière, et puis la recherche de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a été très invoqué dans beaucoup de réformes religieuses, notamment dans le mouvement évangélique, et pas seulement, déjà, bien sûr, avec des grandes réformes protestantes. C'est bien que il nous faut faire une expérience intérieure. Et Jung dit, si l'âme n'a pas été transformée, alors elle n'a pas été effleurée par le christianisme. Trop nombreux sont ceux qui n'ont pas compris que la figure divine habite au centre même de l'être. Au centre de l'être. Ils n'ont rencontré le Christ qu'en dehors d'eux-mêmes. Vous allez voir pourquoi c'est important. Le christianisme est obligé de commencer à nouveau. J'étais stupéfait de rencontrer, c'est la plume de Carl Gustav Jung dans la Psychologie et l'alchimie, ce que dira un jour le père Men. Ça vous dit quelque chose, le père Men? C'est un prêtre de Moscou qui est orthodoxe, Alexandre, qui a vécu Alexandre Men à la fin de l'épopée soviétique, et que le cardinal Lustiger a rencontré à Moscou en 88, quelque chose comme ça. Et Alexandre Men, voyant le cardinal Lustiger au fond de sa paroisse, de son église, qui est en dehors de Moscou, va vers lui discrètement, puisque la police surveillait le père Men, et le cardinal Lustiger témoigne dans une biographie qui a été écrite sur le père Alexandre Men, il témoigne qu'il a entendu le père Men lui dire le christianisme doit commencer. Il doit commencer, pourquoi? C'est exactement ce que disait Carl Gustav Jung. Il doit commencer parce qu'il doit remplir sa haute mission éducative. Tant que la religion n'est que croyance et formes extérieures et n'est pas devenue une expérience intérieure, spirituelle, rien de fondamental n'aura été fait. Il faut que l'on comprenne que ce grand mystère existe en soi et qu'il a un fondement dans l'âme humaine. Et ce n'est pas pour rien. Si tout à l'heure je commençais en disant qu'il y a un élan de l'homme, de tout son cœur, de tout son être vers Dieu. Parce que nous sommes créés par Dieu. Vous pourriez relire les magnifiques épîtres de Paul, je pense à notamment les Éphésiens, où saint Paul nous dit que, même Colossiens, je vais prendre l'épître aux Colossiens au chapitre 1, le Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est le premier-né aussi d'entre les morts. Et donc, par conséquent, nous sommes créés en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a en nous un élan qui nous porte vers lui. Voilà pourquoi aussi dans la lettre aux Éphésiens, il peut écrire que nous sommes déterminés d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs. Voilà. Déterminés d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs. Tout cela s'inscrit dans notre psychisme, dans notre être, dans notre âme, d'âme humaine. Nous avons à retrouver cette expérience à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes faits pour Dieu, comme dit saint Augustin. Alors, si j'ai cité tout à l'heure Gustave Lyon, ce n'est pas parce que j'en fais un docteur de l'Église, bien entendu, mais c'est pour vous montrer que cet homme qui était par ailleurs assez religieux, mais qui n'a jamais confondu, qui a tâché de ne pas confondre théologie et psychanalyse, montrait que cela fait partie de l'être humain et de sa psyché. Et que d'entrer dans une certaine dimension religieuse de l'existence, voilà, que c'est inscrit dans son âme humaine. Alors, je laisse Jung de côté, je retrouve saint Paul, voyez, que je viens de vous citer, et je voudrais avec vous, dans un premièrement, vous aider à faire cette descente en vous-même, sans laquelle on ne peut pas adorer. Cette descente pour retrouver celui qui est la source de mon être. Je vous propose de voir dans l'adoration un itinéraire vers vous-même. Et donc, paradoxalement, un itinéraire vers l'autre. Parce que, rassurez-vous, ce n'est pas un égocentrisme. Il ne s'agit pas de rentrer en soi pour rester égoïstement, bien au chaud, dans son petit moi. Vous voyez, parce que, comme disait l'autre, le moi, c'est aussi peut-être un piège. Et c'est ce que nous allons voir. Cette expérience spirituelle que nous avons à faire, de descendre en nous-mêmes, pour aller vers nous-mêmes. Pour aller vers nous-mêmes. Dans l'instant où je me trouve devant le Christ, dans l'adoration, là, je suis dans l'éternité. Voilà que le temps extérieur, vous voyez, ce temps dispersé, ce temps quantifié, qui est mon temps habituel, le temps que je compte, que je calcule quelquefois, en fonction de mes activités, de mes engagements, de mes tâches quotidiennes. Voilà que ce temps extérieur dispersé se ramasse en un temps transfiguré. Et là, c'est la vie éternelle qui se déploie. Le temps se trouve comme condensé, résumé, ramassé dans le temps intérieur. Je pense que vous faites tous un peu cette expérience quand vous êtes devant le Saint-Sacrement. Paf, tout semble se condenser. Vous échappez au temps. Ah, s'ouvre une heure devant vous où vous êtes tranquille. Il y a une sorte de dilatation qui se produit. Enfin, vous êtes à vous-même, d'une certaine manière. Vous êtes à vous-même. Il y a une suspension du temps. Autant suspend ton vol, bah précisément, Lamartine aurait dû faire l'adoration eucharistique, il aurait parfaitement expérimenté cette suspension. J'aime bien ce mot, suspension, je vais le mettre par écrit, comme ça. Vous êtes à l'intersection de l'adoration de quoi ? De votre conscience agissante, appliquée aux choses extérieures, et encore une fois, c'est votre devoir d'État, c'est normal, bien entendu, surtout en tant que engagé dans une vie professionnelle, engagé dans une vie familiale, hein, tout cela avec vos engagements et vos loisirs habituels, c'est votre conscience appliquée aux choses extérieures, et le réceptacle de vos forces créatrices et spirituelles, et qui lui est en vous ce réceptacle. Il faudrait vous ramener au centre où se fécondent mutuellement les nécessités extérieures, bien entendu, et la nécessité intérieure. Nous avons une nécessité intérieure. Là où gisent vos forces créatrices, votre énergie spirituelle. Alors, appelons-le l'âme, si vous voulez. Le jeu profond. je dis bien l'intersection de votre conscience appliquée aux choses extérieures et de votre être intérieur. Il s'agit nullement d'oublier les diverses dimensions de votre être. Ne les oublions surtout pas. Là, vous développez en vous votre énergie spirituelle unifiante. Plus vous ramassez la couleur de vous-même, plus vous sentez une énergie spirituelle unifiante, apaisante, harmonisante. Bien sûr que nous avons nos soucis qui ne se volatilisent pas d'un seul coup, comme si d'un coup, on avait oublié les tracas, surtout quand on traverse une épreuve. Mais vous sentez bien que vous pouvez poser tout cela dans votre intérieur, là où la multiplicité est reprise dans une espèce de totalité contemplée, aimée, dans l'expérience d'un moi qui est transfiguré. C'est des mots que je crois très propres à cette expérience. Et on fait l'expérience d'une totalité unifiée. On est ramassé. Et cette totalité en soi-même est aimée. Ce n'est pas qu'une harmonie retrouvée. C'est quelque chose qui développe en nous une envie d'aimer. Voilà. Si je puis dire, de développer le meilleur de nous-mêmes dans l'amour. Dans l'expérience intime d'un moi qui n'est plus mon petit moi, mon petit égo égoïste, mais un moi qui est transfiguré. Réfléchissez, voyez, fermez les yeux et demandez-vous quand est-ce que j'ai fait cette expérience d'avoir été transfiguré. D'avoir fait l'expérience de traverser le miroir, de rencontrer d'autres. En me rencontrant moi-même. Bon, je sais, c'est pas facile. C'est presque indicible. Je sais pas si vous pouvez faire la mémoire de telle ou telle expérience que vous avez faite. Vraiment, une transfiguration de votre intérieur, parce que là, oui, vous avez été au contact au plus profond de vous-même avec votre énergie profonde, spirituelle, et finalement, la rencontre de l'autre, qu'on ne peut pas expliquer ni décrire avec des mots, comme disait le frère hier, parce que c'est une expérience apophatique, une expérience négative, de certaine manière. Négative au sens où je ne peux pas donner des mots, je ne peux pas dire des mots dessus, je ne peux pas le décrire, je ne peux pas l'expliquer. Je fais l'expérience d'être aimé, de désirer aimer. Il me semble que dans notre expérience, depuis notre enfance, depuis que nous avons reçu le baptême, nous courons la mémoire de ces moments exceptionnels. Bien sûr, il ne suffit pas de se retrouver devant le Saint-Sacrement pour faire cette expérience-là. Ce n'est pas que du ressenti, vous voyez, c'est plus que du ressenti. C'est surtout pas que du ressenti, c'est autre chose, justement. C'est ça qui est passionnant. Si ce n'était que du ressenti, on le verrait tout de suite. Ça voudrait dire qu'on se fait plaisir. Il ne s'agit pas de se faire plaisir. Il ne s'agit pas de ressentir simplement un bien-être. Il s'agit d'être transporté. D'être, encore une fois, c'est le mot que j'ai employé, d'être transfiguré dans nos attentes les plus profondes. Si bien que tout devient à ce moment-là inessentiel, relatif. Voilà. Oui, nous recherchons tous à travers le bonheur, ce qui est notre vocation, d'une certaine façon, les auteurs de l'Antiquité le savaient bien, comme Cicéron, nous cherchons le bonheur. Voilà. Mais en fait, ce que nous cherchons plus profondément, c'est une joie. Et cette joie, c'est une participation à Dieu. Là, je vous cite Catherine de Gênes, qui est une mystique du 15e siècle. Catherine de Gênes a laissé un traité du purgatoire, et puis des dialogues assez exceptionnelle, dans laquelle elle montre que l'expérience la plus profonde du purgatoire, c'est la joie. Tout Tout ce qu'il peut y avoir de bon ne lève que par participation de Dieu. Parce qu'il importe de jouir de ce Dieu qui est la fin pour laquelle tout a été créé. Et à l'intérieur de moi-même, dans cette descente en moi, je ne cherche finalement qu'à jouir de celui qui est la fin pour laquelle était créé. La difficulté, c'est que nous souffrons de notre imperfection, de notre distraction, et parfois peut-être même de notre découragement. L'adoration est une lutte. Et Catherine de Gênes crie, le désir de l'âme de se perdre en Dieu est si grand, écoutez bien, qu'il devient son purgatoire. Et là, je dois dire que quand j'ai lu ce traité du purgatoire, qui n'est pas très épais, qui est assez étonnant, d'abord j'y ai vu une leçon extraordinaire d'espérance et de joie, la rencontre de Dieu, vivre de Dieu, tâcher de tendre vers Dieu, et en même temps de réalisme, joie et réalisme, parce que j'ai peur de souffrir, de ne pas y arriver, de ne pas prier vraiment. Et bien cette crainte, cette expérience que je fais de mes imperfections, de mon impossibilité d'une certaine manière, c'est une expérience du purgatoire. Toute expérience mystique est une expérience purgative. Je ne peux pas aller vers Dieu, je ne peux pas ressentir la présence de Dieu, je ne peux pas faire d'expérience d'une béatitude, d'une certaine béatitude, sans que cela ne me cause une souffrance, c'est-à-dire de ne pas y correspondre, de ne pas y arriver. C'est une expérience de l'ordre du purgatoire. Et je me dis dans le fond que le purgatoire, c'est l'horizon, effectivement, de d'autres expériences spirituelles. Et encore une fois, qui est toujours faite d'une double face, de joie bénéficiante, et puis en même temps de souffrance, parce que je n'y arrive pas de la manière que je voudrais, ou à la mesure de Dieu, a fortiori, je ne peux que m'attendre. Les âmes ne voient les choses, non en elles-mêmes, comme leur étant propre. Non, elles les voient en Dieu, auxquelles elles sont beaucoup plus attentives qu'aux peines qu'elles endurent. Voir en Dieu, et du coup, transfigurer aussi les peines, transfigurer les difficultés, les imperfections. Oui, il y a des imperfections. Il y a des scories qui nous collent un peu à la peau, qui nous empêchent d'être totalement libres dans cette expérience de Dieu, bien sûr. Mais dans le fond, dit Catherine de Gênes, elles sont plus attentives à Dieu qu'à ses imperfections. Et c'est cela leur joie. La moindre vue qu'on a de Dieu surpasse de beaucoup toute peine, toute joie que l'homme pourrait avoir. Alors quand on décrit le purgatoire comme étant un lieu de peine, de tourment insupportable, où l'on doit purger littéralement son péché, enfin ce qu'il en reste, plutôt les traces du péché. Oui et non, c'est-à-dire, Catherine de Gênes dit non, d'abord c'est la joie d'aller vers Dieu qui compte. S'il n'y avait pas cela, ça ne serait pas le purgatoire. Ensuite, bien sûr, il faut se laisser hisser vers Dieu, bien sûr, par l'amour purifiant, mais il y a cette joie qui est première. La moindre vue qu'on a de Dieu surpasse de beaucoup toute peine ou toute joie que l'homme pourrait avoir. Voilà. Toute peine, toute joie. Alors, elle exprime avec des mots à elle, vous voyez, simplement, ce qui me semble être notre expérience, ce qui peut, en fond, non pas nous rassurer, mais nous réconforter. Voilà. Quand nous sommes mus par un désir authentique de Dieu, ne nous laissons pas décourager. L'enjeu de la prière dépasse la petite parenthèse que nous prenons dans notre agenda, parce qu'il s'agit en fait de notre éternité. Depuis le début de mon modeste exposé, moi je suis dans l'éternité, je ne sais pas où vous êtes, vous, mais moi je suis dans l'éternité. Vous êtes aussi, j'espère. Vous avez traversé le miroir avec moi, c'est pas vrai. C'est fantastique, quoi, cette expérience. Je cite les mystiques parce que vous dites, ce sont mes compagnons. Donc, je suis transporté par l'expérience qu'ils font. Et moi, je monte dans mon train. Voilà. Quand je lis du Catherine de Gênes, quand je lis du Saint Bernard, ou tout autre mystique, vous-même, vous faites un peu cette expérience quelquefois. Vous voyez, on est transporté, ils nous prennent avec eux sous le bras, quoi. On est soulevés, c'est extraordinaire. Et leurs mots consonnent avec, modestement, telle expérience que j'ai. Et du coup, je fais ce voyage intérieur avec eux. Ils me renvoient à moi-même. Ils me font faire psychiquement et spirituellement le voyage que eux ont fait. Et j'y discerne la main de Dieu. Du coup, avec vous, j'affine quelque peu, et dans un deuxième mot, eh bien, je vous donne quelques clés pour faire paisiblement ce voyage de votre être intérieur. Et donc, vers Dieu, vous avez bien compris, plus ce voyage est intérieur, plus c'est un voyage vers Dieu. J'espère que mon vocabulaire, les mots que je vois, ne sont pas trop étrangers, hein. Sinon vous tapez dessus. Il faut se débarrasser de quoi ? Des faux moi. C'est-à-dire des fixations de ce petit ego préfabriqué qui nous colle au sol et qui nous empêche d'être libres en Dieu. Trois points. Cherchez à identifier en vous les préoccupations artificielles, obsédantes, inessentielles, qui obturent votre accès à votre moi profond. Prenez de la distance. C'est la première sagesse. Quand on est agressé par le monde extérieur, par des réflexions qu'on vous fait, par des événements, par des commentaires, par des reproches, par des regards qui vous accusent, tout cela, ressentiment, peur, colère, jalousie, ce sont des voix intérieures qui essayent de prendre par la violence le micro intérieur. C'est comme dans le théâtre, tout se passe bien, il y a des intervenants qui prennent leur place et qui s'adressent à vous au micro au moment voulu. Puis brusquement, quelqu'un qui sort de l'assemblée, qui prend le micro et qui se met à hurler dans le poste, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est fou? C'est folle. Et vous êtes dérangé littéralement par cette agression de quelqu'un qui prend le micro. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a des voix qui prennent le micro. Ce sont des images, des souvenirs blessants, des craintes immotivées, des peurs. Distancer, identifier, passer alors deuxièmement au discernement. Après la distanciation, premièrement, le discernement. Vous devez vous demander instantanément devant ces émotions oppressantes qui parlent, qui dit ça? Qui ressent cela? Devant une peur, devant une colère intérieure, et qui revendique ça? Au profit de qui ou de quoi? Pour protéger quoi? De quelle émotion suis-je l'otage? Qui m'envahit? Pour renforcer quoi? Vous voyez, ce sont des bonnes questions. Qui parle quand je ressens une colère? Mais c'est quoi cette colère qui parle en moi? Ça vient d'où? Qui parle? Et au profit de quoi? Et si je suis en colère, c'est parce que je suis blessé. Si je suis blessé, c'est peut-être à cause d'une image de moi-même qui est blessée. Donc c'est ça qui essaie de se renforcer en moi. Mais c'est pas moi, ça. Vous comprenez? Mais ça, c'est pas moi, ça. Le discernement, ça consiste à mettre à distance et à identifier cette peur, cette crainte, ce ressentiment, cette colère, en disant, c'est pas moi. Un des ressorts de ça, c'est la jalousie. Voilà, l'Apocalypse. Si vous lisez le livre de René Girard, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair », qui est un très joli livre, et, enfin joli, c'est peut-être pas le mot, très philosophique, très réaliste, ben, il met en scène l'Apocalypse en disant « Ce qui nous sauvera, c'est l'Apocalypse ». C'est-à-dire, identifier, discerner les faux moi, discerner les jalousies, les vanités, les mimétismes, René Girard a mis le doigt exactement sur le problème de la psychologie humaine. Hein, mimétisme qui nous empêche d'être nous-mêmes. On veut sans cesse imiter ce qui n'est pas nous. D'où notre violence, d'où notre agressivité, d'où les revendications. Oui, c'est l'apocalypse, c'est la bête ou cette tête hein, qui se regarde dans le miroir du dragon. Le dragon qui est le Satan. C'est la prostituée qui se regarde dans le miroir, vous voyez, les biens, les richesses, mon pouvoir, etc. C'est ça ce mimétisme. Hein. Et plus j'imite l'autre, plus par mimétisme je vis une rivalité jalouse avec l'autre, plus je monte aux extrêmes. La montée aux extrêmes dont parle René Girard. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire, vous voyez, qu'il y a en nous à discerner ces faux bois. C'est indispensable. Une fois qu'on a compris ça, on est dans une paix. Alors c'est fini. Tiens, je suis en colère, mais pourquoi je suis en colère? D'où ça vient ça? Pour qui? Pourquoi? C'est moi qui suis en colère? Même si un reproche m'a été fait, si bien. Oh là, mais c'est pas moi ça. C'est pas parce que l'autre fait pipi par terre et se roule dedans qu'il faut que je me roule avec lui, quoi. Hein? Voilà. Donc, distance, voilà. Enfin, entrer dans une désidentification. Arrêtons de maintenir inconsciemment un conflit entre ce qu'on croit être et puis ce que l'on est réellement. Les peurs et les craintes inconscientes brouillent notre vision de nous-mêmes. On est accaré par ces faux moi artificiels et qui constituent des autoprotections. Vous voyez, c'est tellement plus facile de s'appuyer sur l'image de soi-même. Hein, rappelez-vous ce que disait le frère hier, l'Apocalypse. Les pouvoirs, ce sont des fausses identités, ce sont des faux moi en quelque sorte. Et ça nous empêche à la fois d'être libres et de grandir. Il y a un ressort de notre personnalité qui doit être démasqué à tout prix, cette espèce de culpabilité permanente qui nous fait nous reprocher ce que nous sommes par rapport à ce qu'on devrait être, par rapport au jugement des autres. À l'image qu'on se fait de soi-même. Hein, c'est ça, cette culpabilité qui nous tue. C'est permanent. Hein. C'est permanent. Je crois que là, il y a un ressort suicidaire, spirituellement parlant, qui doit être descendu. Cette culpabilité qui est une forme complètement déviée et perverse de la conscience de son imperfection. Être conscient de son imperfection. Chose, c'est la désolation, et il y a une expérience heureuse de la désolation. Hein. Comme disait François de Sales, hein. Haïssez votre péché, mais haïssez-le d'une manière tranquille. Voilà, prenez de la distance. Ce n'est que votre péché, votre imperfection. Et ça, c'est pas vous. Gardez cette paix intérieure. Il faut donc échapper à ces leurres psychologiques. Les leurres psychologiques, ce sont ces couches superposées, préfabriquées du moi, qui hurlent au micro à chaque fois que nous sommes déstabilisés, à chaque fois que les événements ou les paroles qui nous sont adressées nous déstabilisent. Voilà. Ces leurres psychologiques doivent être identifiées. Donc, peur de manquer de temps, manquer d'assise personnelle, manquer d'à propos, manquer de justesse. Voilà. Hein, ce peur de manquer d'assise. Hein, et qui se tourne en culpabilité. Voilà. Le contraire de ça, c'est une saine désolation. Vous voyez, le lâcher prise. Ce lâcher prise où on se retrouve devant Dieu à l'intérieur de soi-même, dans cette heure d'adoration, simplement soi-même. Renoncer à s'identifier à des images fausses, illusoires de soi-même, accepter la désolation d'être soi-même et reprendre pied en Dieu. Alors j'arrive à un certain vide, voilà, c'est le vide des mystiques, qui ont renoncé à tout ce qui obture le jeu profond. Alors quand j'entends dire, n'est-ce pas, que la religion est culpabilisante, j'ai encore lu ça sous la plume d'un psychologue qui est un de mes amis que je connais depuis 40 ans, enfin je vais lui dire, il écrit un livre là-dessus, je m'en inspire un peu, et il voit dans les religions instituées des religions culpabilisantes. Il a pas vu les pères de l'Église, désert, il n'a pas lu Isaac Syrien, il n'a pas lu Saint Macaire l'Égyptien, Saint Jean Climac, je ne sais pas qui encore, ça pourrait être Saint Bernard de Clairvaux, le nuage de la connaissance, un grand mystique anglais, ou bien encore Saint Jean de la Croix, qui tous nous montrent que la foi vécue dans le mystère du Christ, c'est peut-être une expérience de dénuement, et non pas de culpabilité, ce qui est très différent, parce qu'il faut justement savoir se dénuder de sa culpabilité. Alors, dans cette épreuve qui est une libération, je ne suis pas anéanti, je suis vide de moi-même, ce qui est une chose, mais je ne suis pas anéanti devant Dieu. Ah, oui, je me retrouve moi-même devant Dieu, et dans cette pauvreté intérieure, dans cette désolation béatifiante, si j'ose dire, alors je deviens en Dieu, je me regarde en Dieu, comme dit Saint Bernard, le quatrième degré de l'amour, se voir en Dieu, non pas en soi-même. Je me vois en Dieu, enfin dans son regard, mais qui est un regard qui est assez pur pour pouvoir me voir tel que je suis sans m'anéantir. Vous voyez ? Le regard de Dieu est un regard plénifiant qui me voit comme je suis sans m'anéantir, au contraire, dans ma pauvreté même. Étonnante. Je passe alors à une authentique dualité, voilà. La dualité authentique du moi et mon Dieu, comme disait le cardinal Newman, une belle expression qu'il disait, hein, moi et mon Dieu. Non pas parce que Dieu est seulement fait pour moi, mais parce que je fais à un moment l'expérience étonnante que je compte pour Dieu, tel que je suis. Alors à partir de là, je peux démarrer une vraie expérience spirituelle, qui n'est pas égoïste, mais qui n'est pas égocentrée. Parce que en Dieu, du coup, je peux m'ouvrir à tout le cosmos.
Il faut beaucoup d'humilité.
Troisième point, je vous ai montré après l'élan qui vous conduit vers Dieu dans l'intériorité, comment se défaire des faux moi. Alors, il s'agit, troisièmement, de laisser l'Esprit Saint nous rendre à nous-mêmes. Vous voyez, je suis parti d'une expérience à la fois spirituelle et psychique, je suis descendu à l'intérieur de moi-même, j'ai compris que j'ai à m'anéantir, à me vider de moi-même, dans une désidentification progressive, d'accord, hein. Et voilà que j'arrive maintenant au cœur, se laisser rendre à soi-même par l'Esprit Saint. C'est le rôle de l'Esprit Saint, d'être le lien entre deux personnes divines, comme vous savez, hein. Dans le don total et infini d'un amour éternellement unifiant entre le Père et le Fils. Le don d'un amour éternellement unifiant. La différence des personnes, le Père et le Fils, se déploie dans l'unité de l'essence divine. Cette différence des personnes, elle se déploie dans l'unité de l'essence divine, dont elle est la condition. La différence des personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, est la condition de l'unité de l'essence divine. Loin d'être une abstraction, la Trinité enseigne cette vérité qui est au fondement de toute chose. Et qui est au fondement de l'accomplissement de soi par l'autre. Voilà. La Trinité est au fondement de toute chose et de l'accomplissement de soi par l'autre et en l'autre. C'est l'Esprit Saint qui personnifie cette réalité. Les docteurs de l'Église voient dans l'Esprit Saint vraiment le lien unifiant de l'amour du Père et du Fils. C'est le jaillissement de l'amour du Père et du Fils, donc la différence même des personnes, Père-Fils. Eh bien, l'Esprit Saint est par définition chacun de nous, comme le souffle créateur, voyez, la Genèse, la création d'homme. Dieu inhala son souffle de vie en l'homme. Donc, il est en nous tel le souffle créateur, tel le souffle de Jésus sur ses apôtres le jour de la résurrection. Jean, chapitre 20, Jésus. Jésus apparaît, la paix soit avec lui. Et il leur dit, recevez les Saints, il souffle sur eux. Comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Alors nous aussi, nous recevons l'Esprit Saint. L'expérience d'une petite Pentecôte, le jour de Pâques. Eh bien, il faut laisser l'Esprit Saint dilater notre être en nous confiant à son agir bienfaisant. Oui, je me confie au Seigneur Esprit Saint, c'est lui qui m'unifie. En m'unissant au Père par le Fils. Tout ce que je peux ressentir d'extériorité, d'hésitation, de dispersion, se résorbe par définition dans l'Esprit Saint qui m'anime. Parce que si l'Esprit Saint est le principe unifiant du Père et du Fils, quand je dis principe unifiant, c'est pas tout à fait exact, puisque c'est le Père qui l'origine de tout, mais il est le lien unifiant du Père et du Fils. Si je dis cela pour Dieu, alors a fortiori, je peux le dire pour moi, comme créature, vous rendez compte, hein? Dieu est un, unifié. C'est pour que moi-même je sois unifié dans ma vie intérieure et ma vie spirituelle. Je demande à l'Esprit Saint de m'unifier. M'unifier en moi-même, de m'unifier avec les autres aussi, bien entendu. Il nous unifie en nous-mêmes et en lui-même. C'est le propre du Dieu un de la Bible, hein, c'est qu'il unifie. Et bien là, où, dans la descente en moi-même, je fais l'expérience intérieure et psychique en même temps de ma dispersion. Et de mes manques, voilà que l'Esprit Saint est par définition, si j'ose dire, il est le principe qui m'unifie. Donc plus je prie l'Esprit Saint, plus je me mets en vie, plus je suis unifié. Et c'est bien en Jésus, puisque l'Esprit Saint, on l'a vu hier, chapitre 22 d'Apocalypse, on voit bien que l'Esprit Saint est ce fleuve d'eau qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. C'est bien l'Esprit Saint qui jaillit du Christ présent dans l'Eucharistie et qui me conduit au Christ dans l'Eucharistie. L'Esprit Saint nous révèle Jésus dans sa vraie dimension, dans sa dimension invisible qui est le Père, auquel il nous conduit. Il nous révèle le Père dans la dimension visible du Père qui est Jésus. Vous voyez, Jésus est la dimension visible du Père et le Père est la dimension invisible de Jésus. Donc nous sommes conduits vers le Père par Jésus visible dans l'Eucharistie, si je puis dire, hein, et l'Esprit Saint en même temps nous conduit à Jésus visible. Il y a là une jonction entre le visible et l'invisible. Et dans l'Eucharistie, cette jonction, là encore, s'opère. Elle s'opère pour nous. C'est un peu ce que je disais au début. Le point d'intersection entre ma conscience qui est dispersée, occupée aux choses extérieures, et l'énergie créatrice et spirituelle qui est en moi, qui est, elle, invisible, d'une certaine manière. Et vous voyez, analogiquement, c'est la même chose dans l'Eucharistie. Jonction entre le visible et l'invisible. Entre le visible du corps et l'invisible de Dieu. Elle s'est produite à trois moments. Elle se produit à trois moments, cette jonction. À l'incarnation, Luc, chapitre 1, quand l'Esprit Saint vient sur Marie, hein, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut dépendra sous son nom. L'invisible de Dieu se rend visible dans l'incarnation et le sein de Marie. Deuxième moment, c'est la résurrection de Jésus, qui dans son corps est passé dans le monde de son Père, et qui nous laisse l'Esprit Saint, je l'ai rappelé tout à l'heure, Jean 20, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint, et il souffla sur eux, d'accord. Deuxième moment de jonction entre l'invisible et le visible. Et puis enfin l'Eucharistie, troisième moment, je vois, l'Eucharistie où le Christ est présent, il est présent là, moyennant l'épiclèse à la messe, que prononce le prêtre, envoie ton Esprit Saint sur ses offrandes, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Hein, vous vous souvenez? C'est la troisième prière eucharistique. Et dans ces trois moments névralgiques, l'incarnation, la résurrection, l'Eucharistie, l'Esprit Saint est présent. Et qui fait la jonction entre l'invisible de Dieu et le visible de notre monde terrestre et corporel. Donc l'Esprit Saint, vraiment, dans l'Eucharistie, nous permet d'aller vers Dieu à travers ce corps eucharistique du Christ. On est dans cette logique eucharistique. Oui. D'ailleurs, quand Jésus souffle l'Esprit Saint sur ses apôtres, vous vous souvenez, c'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, un dimanche. Thomas est absent et Jésus apparaîtra, se manifestera 8 jours après, encore un dimanche. C'est la logique eucharistique. Nous lisons dans ce récit du chapitre 20, nous y voyons une logique eucharistique à l'œuvre. Le dimanche, précisément, jour du rassemblement eucharistique, et Jésus se présente à Thomas, ayant soufflé l'Esprit Saint sur ses apôtres, il se présente à Thomas pour qu'il regarde, voit ses plaies de ressusciter. Avance ta main, plonge-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et dans cette logique eucharistique dominicale, Thomas fait l'expérience physique, si je puis dire, quasi physique, c'est l'ordre mystique, bien sûr, du Christ ressuscité. On est encore dans la jonction, et dans la jonction de l'invisible et du visible. C'est dans l'Eucharistie que ça se passe. Cette présence de réel, cette présence réelle de Jésus, c'est son inhabitation en nous par l'Esprit Saint. Depuis qu'il a dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Encore faut-il que je me laisse faire et que je ne me laisse pas envahir par moi-même, que je ne me laisse pas dissocier de cette part éternelle de moi-même, là où Dieu me rejoint au plus profond de moi. Et l'Eucharistie, quand je la reçois, quand je communie, eh bien, c'est là que s'opère la jonction. Entre mon corps et mon esprit, entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Voilà, c'est là que s'opère la totalité, justement, que s'expérimente, si je puis dire, la totalité. Et donc la réconciliation. Des deux dimensions écartelées de mon être. La différence avec le bouddhisme, avec beaucoup d'expériences de l'humanité qui sont authentiques, qui sont elles aussi vraies et belles, c'est que nous, c'est dans la rencontre de l'autre que ça se passe. C'est pour ça que j'insiste sur l'Esprit Saint, le lien d'amour du Père et du Fils, parce que en Dieu, il y a de la relation, il y a une rencontre, il y a un don de soi, une circulation d'amour. On n'est pas dans une égoïté, en quelque sorte. Vous savez, c'est bien qu'il y a une différence avec le bouddhisme, sans nullement dévaluer l'expérience bouddhiste. Mais la rencontre de l'autre, elle est centrale. Alors, cet ami psychologue avec qui je parle quelquefois et qui invite à faire ce trajet intérieur pour retrouver son humilité, sa totalité, lui, pour lui, l'homme est invité à se fondre dans un tout, dans une totalité où il n'y a plus de sujet, d'objet, tout est fondu. Alors, je sais que l'expérience de crucifiant, hein, si j'ose dire. Je crois que vous savez du Saint-Bernard. Saint-Bernard qui dit se perdre, en quelque sorte, comme si l'on n'existait pas, ne plus avoir aucune conscience de soi-même, être arraché à soi-même, presque réduit à rien. Vous voyez les expressions de Saint-Bernard du XIIe siècle, sont assez étonnantes, mais ne plus avoir conscience de soi, arraché, réduit à rien, intention qui se veut pure, clarifiée, que plus rien ne s'y mêle, qui soit propre. Et la déposition totale de soi, être ainsi touché, c'est être déifié, dit saint Bernard. Hein, il écrit dans son traité d'amour de Dieu, De diligendo Deo. Hein, c'est absolument saisissant. Sinon, comment Dieu serait-il tout en tous s'il reste dans l'homme quelque chose de l'homme? Oui, il est quand même culotté, saint Bernard. Hein, il reste même rien de l'homme devant Dieu. Alors, il est bouddhiste ou quoi? C'est pour vous dire que même les mystiques chrétiens, ils vont jusqu'au bout d'une expérience de quasi-extinction du soi. Mais c'est du Saint-Bernard. Saint-Bernard, lui, c'est un grand amoureux de Jésus. Il n'est pas dans la fusion. Il fait une expérience mystique d'anéantissement de soi, mais devant l'autre, devant Dieu que je rencontre et qui me béatifie. D'ailleurs, il ajoute, bien sûr, la substance persistera. Bien sûr, substantiellement, je suis un homme, je ne suis pas Dieu. Hein. Mais sous une autre forme, dit-il, dans une autre gloire, une autre puissance. Voilà. Alors là, on est au bout, vous voyez, on est à l'extrême d'une expérience mystique, exprimée avec des mots, vous voyez, une sorte d'anéantissement où, malgré tout, ça n'est possible que dans la rencontre amoureuse de l'autre. Voilà. L'Esprit Saint est vraiment pour nous le principe par lequel ce mystère peut s'opérer, la jonction improbable, impossible, entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Voilà. Et ça se passe à l'intérieur de moi, la frontière elle est en moi. Et l'Eucharistie en est évidemment, grâce à la contemplation du Christ qui a donné sa vie pour nous et qui nous conduit vers son Père. Elle en est le point de passage. C'est la grâce qui nous est donnée que dans cette apparence du pain, dans cette espèce du pain présenté à mon adoration, je fasse l'expérience du ressuscité en moi, qui m'unifie, qui me libère de moi et qui me permet cette rencontre, elle aussi improbable, de l'autre avec un grand A, qui est Père, Fils, et Saint-Esprit. Alors laissons l'Esprit Saint nous unifier et nous unir à ce grand autre, celui que nous tâchons d'aimer maladroitement et qui se révèle sans cesse en nous, toujours, dans la réalité de l'Eucharistie, dans le silence de l'adoration, dans une remise de nous-mêmes, humble et douce, comme il nous y appelle. Voilà. Alors je vous laisse maintenant avec ces quelques mots qui vous ont permis de, j'espère, d'entrer dans le mystère. Je voudrais rappeler qu'hier nous avons lu à l'évangile de ce samedi le passage de la tempête apaisée. Alors intéressant parce que moi j'avais pensé à un autre passage qui est voisin, celui où Jésus marche sur l'eau et où nous faisons l'expérience que Jésus est loin, semble loin, puisque au moment du passage de Jésus sur l'eau, Jésus avait renvoyé ses apôtres pour qu'ils traversent la mer de Tibériade et qu'ils aillent sur d'autres rives, lui se retirant à l'écart sur la montagne pour prier. Donc on a l'impression d'extériorité, hein, que Jésus n'est pas avec ses apôtres, et quand il les voit dans la difficulté, l'évangile nous dit que alors il vient vers eux sur l'eau, il marche sur l'eau, ils le voient, ils sont effrayés, ils prennent pour un fantôme, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monta dans la barque, il est avec eux. Mais il me semble que ces mouvements, c'est le mouvement que nous devons tâcher de suivre, tout simplement, celui d'être habité par le Christ, puisque nous croyons. Nous qui croyons que toujours le Christ est à l'extérieur, ou pas à l'extérieur, il nous rejoint à l'intérieur. Vous voyez, à chaque fois que je vais vers l'adoration eucharistique, je ne fais que rejoindre celui qui est déjà là, avec moi, à l'intérieur. C'est moi. N'ayez pas peur. Vous voyez, c'est bien à l'intérieur que ça se passe. Il monte dans la barque. C'est bien avec nous. Est-ce que je crois que Jésus est bien plus intime à moi-même que moi-même? C'est un mot de saint Augustin, ça. Jésus plus intime à moi-même que moi-même. Et si nous ne pouvons pas répondre à cette question, alors c'est vrai, nous faisons de la religion quelque chose d'extérieur. Un ensemble de principes, de codes, de morale, de vérité à croire, d'attitude, de posture. Vous voyez, la religion n'est pas une affaire de posture, quelle qu'elle soit, si justifiée qu'elle soit. C'est une affaire d'intériorité, d'expérience. Laissons donc l'Esprit Saint agir en nous, et à travers le récit que vous retrouvez dans l'Évangile de la tempête apaisée et de Jésus marchant sur l'eau, vous avez là l'expérience de Dieu qui est à l'intérieur, et non pas à l'extérieur, dans nos représentations, dans nos idées, un Dieu dont nous faisons intimement l'expérience, comme les apôtres, lors de la tempête apaisée ou quand Jésus marche sur l'eau. Je fais cette expérience. Il m'invite à la faire avec lui. Et c'est ce à quoi je vous invite maintenant, dans les trois quarts d'heure qui nous séparent de la messe, puisque nous avons la messe à 11h à l'église. Je concéderai avec nos frères de la communauté Saint-Jean.
Permettez-moi, Jean-Pierre, de vous remercier pour tout ce que vous nous avez transmis ce matin. Et permettez-moi aussi, chers amis, de vous demander de partager cette prière qui est la mienne quotidiennement et qui résume, je crois, humblement ce que vous. Viens, Esprit Créateur, remplir notre cœur et notre âme de ta sagesse et de ta grâce. Donne-nous l'esprit de vérité dans l'humilité, la vertu de discernement, l'intelligence de tes enseignements, la cohérence dans notre vie. Augmente en nous la sagesse pour nous permettre de recevoir et d'accepter tes volontés et de vivre dans le détachement et la sérénité. Remplis nos cœurs de ta force et de ta paix. Conduis-nous vers le ciel. Apprends-nous à être familier avec Dieu le Père, de recevoir le Fils, de vénérer et d'aimer le Saint-Esprit dans la grâce de Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Merci.